Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous êtes aussi nombreux derrière la radio que nous dans le studio, parce que là, je crois qu'on bat tous les records. On n'a jamais été aussi nombreux dans le studio pour notre émission, que j'attendais avec impatience, l'émission consacrée à la jeunesse et à l'écologie. On fait ça le comble. On est combien? Presque une dizaine autour des micros. Donc il n'y a pas assez de micros, pas assez de sèches. Mais bon, c'est déjà la bonne humeur. Il fait une chaleur de feu. Mais bon, c'est comme si on va parler de réchauffement climatique. Tout va bien. Alors, d'habitude, on présente les invités. On aura le temps de rentrer dans les détails. Mais là, on ne peut pas. Il y a Inès, Pauline, Jason, Étienne, Ferial, Armel, Laure, Bouteina, Bilal. Et puis Ben, qui est là, quand on fait une émission jeunesse, il débarque immédiatement. C'est trop. C'est vrai que c'est sympa pour nous, hein, qu'ils soient carrément un jeune boomer, un boomer, on va dire, patenté de l'autre côté du micro. Et puis, cette génération Z, dont on a beaucoup entendu parler, et là, on la voit. Bon, c'est vrai qu'ils ont à peu près l'âge de nos enfants, dont du moins des miens. Tout est bien, mais bon, rapidement, on reprend dans l'autre sens. Bilal, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens?
Le sens de ta vie.
Vas-y. Non, Ben, passe plus le micro.
Du coup, moi, c'est Bilal, j'ai 23 ans. Je fais un peu des actions avec Bismarode. Je suis actuellement en alternance en tant que chef de projet.
Quel domaine?
Dans la téléphonie.
D'accord. Allez, hop.
Alors bonsoir, moi c'est Boutaina Abali, j'ai 24 ans, je suis étudiante en master géopolitique et géostratégie. Je m'intéresse à l'environnement et au climat et c'est pour ça que je suis là.
Bonsoir, moi c'est Laure Gauroy, j'ai 24 ans. Après un master en communication politique et un autre en sociologie du travail, je suis dans l'attente de validation d'un contrat de thèse sur les questions de sociologie de l'environnement et de sociologie du travail. Et à côté de ça, je suis engagée chez les écologistes à Nanterre et coprésidente du Parlement populaire du NFP.
Parfait, donc tu cumules, mais bon, on verra plus tard.
Alors bonsoir, moi c'est Armel Guillot, j'ai 23 ans et je suis en master transition écologique à Sciences Po Grenoble et je suis à Paris pour un stage à France Nature Environnement Île-de-France en tant que chargée de plaidoyer.
D'accord, donc on a même des grenobloises qui sont montées à Paris. Allez Ferial. Ok.
Bonsoir, moi c'est Ferial, j'ai 28 ans, donc je suis au tout début de la Gen Z, finalement.
Ben oui, oui.
Je suis
97, donc.
Oui, c'est voilà, ça. Voilà. Je suis bénévole référente chez Bismarode et je suis également en communication, je suis en freelance, donc je suis community manager. Si vous avez besoin, vous m'appelez?
D'accord, on en parlera après ça. Allez Étienne, je te passe le micro.
Bonjour, moi c'est Étienne Cognier, je suis activiste, militant écologiste depuis maintenant quasiment... 10 ans j'ai participé au mouvement climat. Aujourd'hui, je fais de la musique pour l'écologie à l'Orchestre du Nouveau Monde et j'essaye de faire un peu de politique aussi pour l'écologie chez Les Verts à Maison Alfort. Voilà.
Bonsoir, moi j'ai deux prénoms, Jason et Temawi. J'ai un prénom occidental dû à la colonisation et mon prénom tahitien, Man. J'ai 29 ans donc je sais pas si je suis trop avec vous, mais j'aimerais bien. Je suis un militant polynésien, donc je suis à Paris notamment depuis quelques années en tant que chargé de plaidoyer pour une asso, notamment pour représenter les intérêts écologiques de la Polynésie, donc qui est un pays assez immense qui fait la taille de l'Europe, 118 îles, 5 millions de kilomètres carrés de ZEE, et dans ces grandes familles des Outre-mer qui abritent 80% de la biodiversité française. Donc je suis là pour dire au mouvement écologiste que si vous voulez défendre le vivant, il est chez nous, donc s'il vous plaît, concentrez-vous sur là où c'est peut-être un peu plus pertinent. Je vice-préside la Fédération des assos environnementales de toute la Polynésie. Du coup, je préside aussi l'association Temotu, où je suis chargé de plaidoyer. Et je travaille beaucoup dans les milieux d'écologie décoloniale ici à Paris.
Parfait. Écoute, tu nous raconteras. Et c'est passionnant de découvrir cette face des antipodes. Quoi. Inès.
Bonsoir, je suis Inès, j'ai 28 ans, donc pareil, tout au début de la
vie. Limite, limite.
Et je suis chargée de communication chez Pic-Pic Environnement, qui est une éducation, qui est une association, pardon, d'éducation.
D'accord,
populaire.
Donc on connaît bien ta directrice.
Voilà.
Caméra. Eh bien, Pauline, alors qui est, on va presque dire, une habituée de la maison maintenant.
Oui, Pauline, je suis journaliste, je suis hors catégorie maintenant, j'ai eu 30 ans cette année.
Voilà.
Et oui, je suis là tous les premiers mercredis du mois pour parler de livres d'écologie, puisque je suis là avec l'association du Festival du Livre et de la Presse d'écologie.
Bah écoute, je crois que la transition est toute faite. Qu'est-ce que tu as à nous raconter cette semaine pour quel livre, dans ce mois-ci donc?
Eh bien, puisque le thème de l'émission, c'est la jeunesse, je ne me voyais pas parler d'autre chose que du livre de Salomé Sacquet, « Sois jeune et tais-toi ». J'imagine que beaucoup de personnes dans cette pièce l'ont lu. Alors, « Sois jeune et tais-toi », c'est un livre qui a été publié en 2023 aux éditions Payot. C'est une enquête où la journaliste dresse le portrait non pas d'une jeunesse, mais des jeunesses qui composent une génération qui évolue dans un contexte inédit. Et si je recommande ce livre qui a déjà été quand même pas mal médiatisé, c'est parce qu'il s'attelle à démonter les clichés qui collent encore à la peau des jeunes. Alors pour en citer quelques-uns, il serait feignant, malpoli, inculte, égoïste, la liste n'est pas exhaustive.
Bon, mon grand-père disait déjà ça de moi.
Mais hein. C'est exactement ce qu'elle dit dans son livre, que c'est quelque chose qui ne n'appartient pas qu'à notre époque. Et donc la journaliste démontre d'abord que c'est faux, mais elle ajoute aussi que les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans un contexte plus compliqué que leurs parents à leur âge. Il y a eu le Covid, le confinement, mais ils subissent aussi de plein fouet le chômage, la précarité, la difficulté à accéder à un emploi stable, à un logement, et bien sûr par-dessus tout, et on est là ici pour ça, la crise écologique qui menace directement leurs conditions de vie sur Terre. Et d'ailleurs, à ce sujet, le livre démonte aussi cette tendance à présenter la jeunesse comme la génération climat. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en partie chez les jeunes qu'on retrouve le plus haut taux de climato-scepticisme. Et quand bien même, on ne peut pas faire porter aux jeunes la lutte pour l'écologie. Parce qu'au-delà de la question de la responsabilité, et c'est un autre point défendu dans le livre, les jeunes n'arriveront pas à avancer dans leur combat seuls. Parce qu'ils n'ont pas accès au pouvoir, qu'on ne leur donne pas la parole, et parce qu'ils ont aussi peu de poids politique. Pour le montrer, un chiffre, aujourd'hui, la population en âge de voter est composée en majorité de personnes de plus de 50 ans. Donc même si les jeunes votaient tous pour l'écologie, ça ne pourra jamais faire le poids. Alors Noël approche avec ses repas de famille parfois mouvementés et c'est donc un super livre à offrir pour essayer de créer un dialogue intergénérationnel. Et nous, au Festival du Livre et de la Presse d'écologie, on vous prépare une sélection de livres issus de maisons d'édition indépendantes pour tous les âges. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on s'appelle sur Instagram Felipe-Asso et Festival du Livre et de la Presse d'écologie sur les autres réseaux. Merci beaucoup et à bientôt.
Eh bien, merci Pauline. Donc, c'était le coup de chapeau de Felipe.
Exactement.
Voilà. Bon, eh bien, on a aussi Théo qui est à Rouen, qui nous envoie sa première chronique enregistrée, parce qu'il ne pouvait pas être là ce soir, puisqu'il est en stage à Rouen, comme je le disais. Bon, je vais peut-être dévoiler, il travaille sur les relations de l'eau et de l'agriculture en Normandie. Donc, vas-y.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Théo et mon rôle ce soir ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles. Parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Alors au passage, qui dit nouvelle chronique dit nouveau nom, ça viendra dans les semaines qui arrivent. En attendant, aujourd'hui on va parler de bisons. Alors je vous le concède, d'habitude quand on pense aux bisons, on pense surtout aux grandes plaines d'Amérique du Nord, aux Amérindiens ou aux cow-boys. Mais ici c'est bien des bisons d'Europe qu'on va parler, parce que oui, tout le monde ne le sait pas, mais un lointain cousin du bison d'Amérique a aussi pâturé dans les plaines d'Europe pendant très longtemps. Et on pourrait se dire que ça relève surtout de quelques vieux souvenirs préhistoriques, mais pas du tout. Sachez qu'en 1920, il y avait encore des bisons en liberté en Pologne. Et si on remonte un peu plus loin, au Moyen-Âge par exemple, sachez que les bisons se comptaient par dizaines de milliers en Europe à l'état sauvage. Alors, au fil des siècles, cette espèce, elle va être victime de la chasse intensive, des guerres aussi, et elle va finir par disparaître complètement à l'état sauvage en 1927. Et là, vous vous demandez sûrement où est la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on est censé parler de choses positives dans cette chronique, et on parle d'une espèce éteinte. Et bah elle est là, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, l'espèce n'a pas totalement disparu en 1927. Les bisons d'Europe ont certes disparu à l'état sauvage, mais plusieurs spécimens ont été sauvés et ont survécu en captivité. Et aujourd'hui, plusieurs pays d'Europe réintroduisent le bison à l'état sauvage. Alors ces réintroductions, elles datent pas d'hier, hein, elles datent des années 50 en réalité, mais depuis plusieurs années, on voit de plus en plus de pays multiplier les réintroductions de bisons à l'état sauvage, à tel point qu'on en compte aujourd'hui 6000 en liberté sur tout le continent. Alors, ça reste des animaux sauvages, évidemment, il ne faut pas s'en approcher, mais si vous êtes curieux et que vous espérez en voir, sachez qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin, puisque la Belgique va en réintroduire dès 2026 dans les Ardennes belges, où les animaux seront en totale liberté. D'ailleurs, encore plus près de nous, sachez que des populations ont aussi été réintroduites dans le Massif central ou encore en Gascogne. Et oui, on a des bisons en France. Mais alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle tout ça ? Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle pour les bisons d'Europe, hein, qui ont quand même évité de peu l'extinction, c'est cool pour eux. Et surtout, on ne cessera jamais de le répéter, mais tout ce qui est bon pour l'environnement est bon pour nous, les êtres humains. Et les bisons ne dérogent pas à la règle, en fait, il faut savoir que ces animaux ont un rôle extrêmement important pour l'entretien des écosystèmes, puisque un seul bison, ça peut manger jusqu'à 30 kg de végétation par jour. D'une part, ça entretient les prairies, ça permet d'y maintenir une biodiversité importante, et d'autre part, il nettoie nos forêts, il les débroussaille en quelque sorte, il les aère, et ça réduit notamment les risques de feux de forêt. En fait, ils font le travail de nos pompiers. L'autre avantage majeur du bison, c'est que ça a beau être balèze comme animal, ça reste une proie. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans un contexte de réintroduction du loup en France, puisque ça permettrait de créer une source de nourriture qui pourrait réduire les attaques sur les élevages, et donc de créer un équilibre. Le bison n'est donc pas qu'une grosse bête poilue, c'est un allié comme toutes les autres espèces, et puis franchement c'est quand même super cool de se dire qu'on a des bisons en France. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée.
Eh ben merci Théo pour cette première chronique sur les bisons. Oui, il y en a dans la forêt de Białowieża, en Pologne, c'était un sujet qui m'a moi-même fasciné à mes débuts, et donc il y a très longtemps. Bon, on va... Ben, tu nous as préparé, je crois...
Je suis très fier de...
Vas-y.
De participer à une émission qui est capable à la fois de parler des bisons et de la génération Z. je trouve que c'est vraiment...
Ah bah écoute, j'ai délégué, j'ai confié cette chronique. Bon, que veux-tu
suis... Non, mais comme je suis...
Va pas chercher des transitions là où il n'est pas nécessaire d'en faire.
Comme je suis celui qui a probablement les cheveux les plus blancs de la pièce, il se trouve que j'ai été chargé plus ou moins de poser quelques questions sur la génération Z. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cet exercice.
Accrochez-vous à la table.
Parce que c'est quand même intéressant de voir. Bon, il se trouve que, si j'ai bien compris, la plupart de ces pirates contemporains se sont manifestés notamment dans le sud global, dans ce qu'on appelait à une époque le tiers-monde.
Oui, dans les derniers mois, là.
Moi, je voudrais savoir si vraiment... Pourquoi, par exemple, la génération Z, elle se manifeste pas beaucoup en France ?
Cette année.
Par exemple. Je voudrais savoir. Et je voudrais savoir jusqu'à quel point vous montrez dans vos mobilisations, vous êtes vraiment solidaire. Et comment est-ce que vous êtes solidaire de toutes ces actions qui ont lieu, que ce soit au Bangladesh, en Birmanie, au Népal, au Pérou et ailleurs, au Kenya ? Voilà, j'ai vraiment envie de bien comprendre.
C'est de la parole.
Bah
fais,
oui.
Fais tourner la parole. Qui veut réagir sur...
Moi, je veux juste dire que je ne suis pas d'accord. On agit tout autant en France qu'ailleurs. C'est juste qu'on ne met pas la lumière sur nous, c'est tout. Nous, on est une association avec BIF. On agit toutes les semaines. On n'est pas subventionné. On n'a pas d'aide. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on agit pas mal en France quand même. Enfin, c'est pas mon avis. Il y a Pic qui est là aujourd'hui. Il y a énormément d'associations qui se développent. Il y a des mouvements. Il y a des...
Alors, est-ce que cette mobilisation, elle est principalement basée sur la crise écologique
ou pas vraiment, mais surtout, on est intéressé par tout.
Voilà, mais voilà qui.
On se mobilise pour absolument tout. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas des mobilisations plus pour le tiers monde et moins pour la France. Au contraire, je trouve que justement, en tant que tout début de la Gen Z, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est même mon métier. On est super mobilisé pour la France. On adore notre pays. C'est juste que les médias mettent en lumière les mobilisations qu'il y a pour le tiers monde, mais ils mettent pas en lumière nous. Moi, par exemple, même avec Pic, on galère. On n'a pas de locaux, on n'a pas d'aide. On n'est jamais appelé par les médias. On n'est jamais relayé sur les médias. Enfin, ce qui est dingue, c'est qu'on dit tout le temps, ouais, c'est de la faute des jeunes. Ils veulent aider ailleurs. Mais on ne nous regarde pas, nous, ce qu'on fait tous les jours sur le terrain. Nous, on se bat tous les jours. Il y a des petits de 16, 17 à 30, 40. Enfin, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est mon avis.
Allez, Jason.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je te rejoins vachement. En fait, je pense qu'il y a une sorte d'imaginaire de la révolution qui est presque délétère. Là, on a des images très impressionnantes dans d'autres pays. Alors déjà, il faut quand même mettre en perspective la répression française et dans d'autres pays. Bien sûr que, par exemple, en Kanaki, où il y a eu des gros événements l'année dernière, beaucoup de gens sont morts. Des milices de gens blancs, descendants de colons, sont mis à tuer des Kanaks en toute impunité. Il y a une répression qui est quand même...
L'état d'urgence et tout.
Ouais. Ouais. D'un sacré point, mais cet imaginaire de la révolution, il faut pas trop s'attacher à ça, parce que finalement il faut juste regarder ce qui se fait. Il y a plein de choses qui se font, et je pense qu'on a quasiment tout ce qu'il faut. On a la pensée actuelle pour changer le monde, on a les gens pour le faire, on a la motivation et le courage pour le faire. Maintenant il faut juste regarder qui le fait et leur donner de la thune, et là on change le monde assez rapidement, je pense. Donc la révolution, elle est là, il faut la voir. Maintenant, il faut pas attendre un grand chamboulement et des belles images pour rentrer en mode « Ah ben, c'est maintenant, et on s'y met ». Elle est là, et regardez bon endroit, et rejoignez-nous, et on casse tout, quoi.
Ça, j'ai peut-être pas tout cassé, mais bon.
Moi, je rejoins tout à fait, du coup, votre opinion. Surtout, ici en France, c'est connu, c'est le pays des révolutions. Et je crois que la Gen Z n'en est pas une exception. Un petit exemple, moi, l'année dernière, j'ai travaillé vite fait dans un lycée. Il y a des jeunes de 16, 14 ans qui ne voulaient plus venir à l'école parce qu'il n'y avait pas des poubelles de tri. Et ça, c'est juste un petit exemple. Je peux en donner beaucoup plus. Et surtout maintenant, avec les réseaux sociaux... C'est beaucoup plus facile, l'information, on la voit. C'est juste peut-être on donne pas assez d'ampleur à ces petits mouvements, mais c'est sûr qu'ils existent.
Qui d'autre veut réagir, Étienne ?
Moi, surtout, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre en perspective les conditions de vie de cette Gen Z dans les pays du sud global, comme tu as dit, Ben, et les conditions de vie de la Gen Z en France, ou en tout cas dans les pays occidentaux. C'est des enjeux qui sont totalement différents, et je pense que c'est pas comparable. Ce qu'on a vu... à Madagascar, au Népal, au Kenya et dans plein d'autres pays comme tu les as cités, c'est aussi des révoltes, des révolutions pour la démocratie, pour des droits fondamentaux. Ce que en France, bien qu'il faut toujours être vigilant à ces choses-là, on a moins à préserver, en tout cas un peu moins à se battre pour ça. Et donc, je pense que c'est des générations qui sont pas comparables et qui sont pas. J'aime pas qu'on fasse. Le fait de généraliser des générations, je trouve ça sociologiquement pas très juste et en plus politiquement pas très opportun à l'échelle d'un pays. Mais alors à l'échelle du monde, je trouve ça d'autant plus inopportun et donc pas comparable.
Vas-y, Laure.
Oui, je rejoins complètement ce que Étienne tu dis. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas complètement uniformiser la génération Z, et il faut prendre en compte justement les régions du monde, les genres, les classes sociales, les questions ethno-raciales, de validité, etc. Et ces éléments-là font que chaque individu va ou non s'engager ou pas vers l'écologie. Et du coup, je pense notamment, tu nous avais interrogé sur l'utilisation des réseaux sociaux et de TikTok. Et je pense que aussi ça va influencer notre utilisation de ce genre de plateforme efficacement ou non, et de s'approprier ou non ce genre d'algorithme politiquement.
Bah, est-ce qu'on peut vraiment gérer les algorithmes ou on les subit ? Donc il y a un moment, vas-y Armel.
Moi, je voulais juste rebondir un peu, et ça rejoint un peu la question, sur justement le traitement médiatique de ce genre d'enjeux, que ce soit les enjeux écologiques, sociaux. Et aujourd'hui, on voit bien que là, on est tous réunis ici, on est beaucoup à venir de petites associations qui sont très peu connues, et jamais on nous invite sur des gros plateaux télé, que ce soit BFM TV, CNews. Et c'est des plateaux en fait qui vont inviter des personnalités politiques ou pas d'ailleurs, des personnes des fois qui sont absolument pas compétentes pour venir parler de certains sujets, et pour autant on voit que c'est ce qui ressort, parce que en fait c'est des groupes qui appartiennent, on sait très bien à quel type de personnes, que ce soit Bolloré, Sterrin, c'est des personnalités aujourd'hui qui monopolisent en fait l'espace médiatique et qui ne donnent pas du tout la parole en tant que jeunes militants, que ce soit écologistes ou pour défendre d'autres sujets
C'est vrai qu'il y a une forme d'usurpation de l'espace médiatique, hein, une espèce d'accaparement de l'espace médiatique par certains pôles. Après, effectivement, les radios ont... savent peut-être pas tellement faire, quand je dis les radios, les télés, savent peut-être pas tellement faire de la proximité et puis du tissu social. Bon, néanmoins, je ne sais pas ce qui se passe trop sur les radios locales ou les télés locales en France 3 ou ici pour Radio France, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus écouter toute la diversité, mais c'est vrai, ce que j'entends c'est que vous avez eu l'impression de pas être représenté, mais j'avais un peu l'impression que c'était pareil à mon époque. Mais bon, Pauline.
Pour rebondir sur le livre de Salomé Sacquet, donc qui est une jeune journaliste, elle a commencé très jeune, elle témoigne, elle explique que même quand elle était invitée sur des plateaux, le fait qu'elle soit jeune, elle n'était pas du tout crédibilisée, on mettait sans arrêt en cause sa parole, et même sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui lui était constamment reproché. Donc même quand on invite les jeunes, on a du mal à vraiment considérer leurs propos et à les prendre au sérieux, et ça je crois qu'aussi c'est un vrai problème.
Ouais, mais moi je m'inscris en faux par rapport à tout ça, parce que j'ai bossé pour une petite ONG qui s'appelait Greenpeace, et je me rappelle très très bien qu'on a eu un stage, ça a duré à peu près 6 mois, où on a essayé de nous expliquer que les médias, c'était pas des ennemis, ça devait être des alliés, et qu'il fallait tout faire pour en faire des alliés. Et ça a été une super leçon et une super école de pouvoir imaginer ça. Parce que là, quand on parle, on se dit « Ouais, mais c'est quand même un peu la faute des journalistes. » Et ça, je pense qu'il faut, vraiment se méfier de ça. Si nous, on vous invite, et si vous n'êtes pas invité ailleurs, à la limite, c'est à vous de vous dire qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas vraiment de nous. Ou qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas utiliser le langage qu'il faut pour nous faire... Ouais, pour tout simplement que notre message y passe. Voilà.
Étienne.
Moi, j'ai envie d'un peu de rejoindre ce que tu dis et en même temps pas totalement. Moi, je suis. J'essaie de créer cette voie entre deux. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les médias, dans les mouvements militants, il faut les utiliser comme des outils et non comme des alliés ou des adversaires. Et ça, c'est très vrai. On est dans une génération et dans une époque où, en plus, on a la chance de pouvoir créer nos médias. On a des plateformes qui nous permettent de dire qu'on n'a pas besoin de BFM pour prendre la parole.
Ce qu'on n'avait pas.
Ce que ta génération n'avait pas. Et surtout, en plus, ce qui est très fort, c'est que c'est ce qu'on appelle ces nouveaux médias. Ils sont encore plus puissants que les anciens médias et qu'aujourd'hui, en vrai, quand tu regardes le nombre de gens qui ont téléchargé Instagram et le nombre de gens qui écoutent BFM tous les jours, ben Instagram, il gagne. Par contre, là où je te rejoins pas, c'est qu'en effet, il y a des médias aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a changé entre peut-être ta génération et la nôtre. C'est qu'il y a aujourd'hui des médias qui sont réellement nos ennemis. Et que on a aujourd'hui une concentration des médias
qui n'y avait pas à
cette époque et des concentrations de médias, parce que la concentration des médias est un sujet en soi, parce que c'est un sujet démocratique, mais aujourd'hui ça l'est de plus en plus parce que c'est concentré dans les mains de personnes qui, il faut dire le mot, pour une partie sont des fachos, comme tu dis, des gens d'extrême droite, voilà. Donc oui, on a des médias aujourd'hui qui sont nos ennemis. Tu as cité CNews et moi j'ai aucun mal à citer CNews pour le dire, mais il y en a d'autres à citer, globalement tout le groupe Canal et puis même d'autres. Je pourrais faire une liste à la Prévert. Et voilà, donc ça c'est des choses qui ont changé ça. Mais on a une puissance sur les réseaux sociaux. Et je crois, en plus, pour revenir à la question précédente sur les mouvements qu'il y a eu à l'étranger, au Népal, à Madagascar et dans d'autres pays, ces mouvements-là, ils se sont construits notamment pas sur des médias mainstream de là-bas, mais plutôt sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une vraie force qu'on a. Sur Discord notamment, sur TikTok aussi. On a vu aussi que ce que certains ont appelé des émeutes au moment du meurtre du jeune Naël à Nanterre. Je réfute totalement le mot émeute. Mais beaucoup, ça s'est passé beaucoup sur Snapchat et donc on a sur Twitter aussi. Ouais. Donc c'est nouveaux médias qui sont dans nos mains. C'est aussi une force et c'est ni des alliés ni des ennemis, mais des outils. Mais il y a des médias mainstream qui sont aujourd'hui des ennemis. Ouais.
Je quand.
Oui, mais faut prendre donc si personne ne veut intervenir. Ah bah vas-y alors.
Il ne faut pas que j'oublie parce qu'en plus je suis dyslexique, ça va partir très vite. Alors déjà, je rejoins tes propos, Étienne. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit des choses que je crois que je n'oserais jamais dire. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec vos deux opinions. Mais il y a un truc qu'on a oublié, on a omis de dire, c'est que les jeunes ont peur en fait. Tu as parlé des émeutes que je ne nommerai pas d'émeutes moi-même non plus. Pour Naël, ben, c'est pareil pour tout en fait, on a peur de manifester. Peur, ouais. Les gilets jaunes se sont fait massacrer, hein. Les manifestations se finissent toujours mal. J'y vais personnellement, je reste une heure parce qu'après on nous barricade et on nous gaze. Donc les jeunes ont peur, tout simplement, on a peur. C'est tout.
Je rejoins complètement ce que tu dis sur la peur de manifester. Ben, pareil, maintenant, je reste une heure. Dès qu'il y a une grenade assourdissante, je sursaute comme une feuille. Et effectivement, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut repenser les modes d'action en faveur de l'écologie ? Je pense notamment à l'enquête Mediapart qui est sortie récemment sur les conséquences des violences policières lors des manifs Sainte-Soline des méga-bassines. On a 5015 grenades lancées, 1372 contenant une charge explosive et plus de 200 blessés, dont 40 grièvement. Et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut pratiquer la désobéissance civile et comment on manifeste ? Et donc, nous, on essaye constamment, notre génération, ceux qui militent, ceux qui essaient de composer avec les éléments qu'ils ont, on essaye justement de trouver des modes d'action.
Mais ça, effectivement, c'est peut-être dramatique de se rendre compte que si c'est le bilan, le constat que vous faites que la jeunesse a peur, c'est effrayant parce que le bilan que tu viens de nous dresser, il est pire que celui de mai 68. Le nombre de morts et de blessés en 68 a longtemps été considéré comme proche de zéro.
À un préfet qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour.
C'est vrai que c'est difficilement entendable de voir cette forme de dégradation de la répression. D'augmentation de la répression, c'était le sujet de notre émission précédente, avec Émilie Petit, qui a une collègue de la JE qui travaille un faux matin, qui a sorti un bouquin sur cette thématique. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas, nous, dans notre habitude, routine de vieux, quoi, pour faire simple, on ne se rend pas forcément compte que la jeunesse a peur. Ce que vous nous dites, c'est un peu une révélation. Quoi. Mais
ça nous permet de poser aussi la question à un autre niveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette génération-ci, à laquelle je n'appartiens pas, comme vous avez remarqué, mais bon, j'essaie quand même de...
Plus
J'essaie quand même de raccrocher les wagons. Et je me dis, il y a une réflexion à avoir par rapport à la guerre et à la paix. Moi j'ai appris dans mes jeunes années, au niveau des études, le lien entre la guerre et l'infanticide différé. Il y a tout un travail qui a été fait déjà il y a 40, 50 ans, sur ces questions-là. Et donc, moi, je me demande pourquoi est-ce que, dans cette nouvelle mobilisation d'aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas une réflexion à avoir par rapport à la guerre et la paix ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à un kit de survie ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être se prendre en main par rapport à cette répression qui va aller probablement au-delà d'une simple répression.
Oui, parce que quelque part, on n'a que...
J'essaie d'élargir le débat.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi que là, pour le moment, les forces de répression sont encore un petit peu sur la retenue. Imaginez qu'on change de président à l'improviste et qu'on se chope quelqu'un d'autre.
Il y a d'autres scénarios possibles, effectivement. Et il y a une graduation qui est possible aussi dans la répression.
Quand on voit les images sur Sainte-Soline, quand les flics se retrouvent en roue libre,
absolument.
Ça fait peur. Quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, est-ce que vous, les jeunes, vous anticipez éventuellement ?
Voilà la question.
Bilal.
Moi, j'ai l'impression que dès qu'on a quelque chose à dire, on se fait directement réprimander.
Et... Réprimander, ça va.
Non, mais quand je dis réprimander, c'est
là,
avec
c'est
des actions.
Réprimander à la matraque,
c'est à la matraque ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est un mot pour dire on se fait réprimander à la matraque, sérieusement, enfin très, très durement. Et ça nous donne cette idée-là de... Est-ce qu'on a, on a une légitimité de parler ou à chaque fois on se fait agresser ?
Et est-ce qu'on est capable de l'objectiver, ça ? Le fait qu'aujourd'hui, il y ait plus de coups de matraque sur les jeunes qu'à une autre époque ?
Allègre FM 93.1.
Parce que bon, c'est votre ressenti, mais est-ce que on serait capable, les scientifiques, les observateurs, les journalistes...
Ah, toi, tu veux des statistiques, hein ?
Ah, moi, je veux des chiffres. Hein. je suis malade, malade des chiffres. Étienne, vous voulez parler ?
Je suis désolé, François, mais je n'aurai pas de chiffres pour toi. Mais moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Bilal, que ce soit sur les questions de répression policière, mais au-delà de ça, et c'est ce que disait Pauline sur les questions de légitimité, en fait, il y a un vrai sujet, mais qui est assez intergénérationnel, je crois, et parce que je crois que les constats qu'on fait aujourd'hui, d'autres générations ont pu les faire avant. Mais en effet... quand un jeune parle de politique, par exemple, souvent on dit « oui, mais tu n'as pas encore travaillé, tu verras, quand tu auras travaillé, tu n'auras pas le même avis. »
Tu n'as pas la légitimité.
Tu n'as pas la même légitimité, tu n'as pas l'expérience pour savoir. Et oui, c'est vrai. Mais il y a ce vrai sujet, au-delà du coup de matraque, comme tu disais, et moi je trouve que les coups de matraque, bien qu'ils soient inacceptables, et tu l'as dit sur Sainte-Soline, ils sont incomparables avec ce qu'on a vu au Népal, avec ce qu'on voit dans d'autres pays du monde, à Madagascar.
Kenya.
Oui, peut-être on y revient, mais je pense qu'il ne faut pas mettre ça sur le même niveau, en tout cas pas à ce moment-là. Et je pense que bien que dans une démocratie, ce qui s'est passé à Sainte-Soline est à mon sens inacceptable, je pense que c'est incomparable avec la répression qu'ont connu les Malgaches ou les Népalais. Toujours, François, je n'aurais pas les chiffres pour toi. Je ne suis vraiment pas le statisticien de l'équipe. Mais s'il y a des statisticiens ici, peut-être qu'ils répondront mieux que moi.
Jason, non ?
Je notifie qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé autour de la table. J'aimerais bien que ces personnes parlent aussi. Moi, j'ai 29 ans et j'ai commencé à faire tout ça quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, c'était l'époque Greta Thunberg, démission du Kalailo. Je ne sais pas si vous situez un petit peu, mais la génération climat, les premières manifs et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais 2025, c'est la deadline. C'est notamment les revendications d'Extinction Rebellion. J'ai connu la naissance d'XR pour vous dire, qui disait il faut qu'on amorce une descente des énergies fossiles d'ici 2025. Là, on va quitter 2025. J'ai eu le temps d'avoir beaucoup de descente, de désespoir, d'espoir, et ça commence à faire très long. Et en fait, je me dis que il faut faire le deuil que nos vies vont ressembler à celles de nos parents, il faut faire le deuil que nos vies vont ressembler à autre chose que purement de la lutte. C'est chiant, et je pense qu'on pourrait se considérer comme une génération, pas forcément les jeunes, mais en fait toutes les personnes qui vivent dans cette période, comme un peu des vies légèrement sacrifiées. Du fait que moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas fonder de famille, j'ai choisi de ne pas vivre avec ma famille dans mon pays pour lutter H24. Et je pense que une fois qu'on accepte ça et qu'on se donne les moyens, on pourra réussir à quelque chose. Mais là, on fait un peu un tableau de c'est compliqué. Et en fait, je pense que c'est bien qu'on se rende compte à quel point c'est compliqué. Ouais, et je suis tellement désolé à chaque fois d'être la personne qui dit « on a raison, c'est hyper compliqué ». Et comment on répond à cette complexité ? Bah, il faut travailler encore plus, il faut trouver des moyens, il faut rallier des gens avec nous. Et comme disait Salomé Sacké dans son livre, il ne faut pas compter que sur la jeunesse. Moi, je regarde mes parents qui auraient les moyens de me payer une équipe de travail pour que j'ai mes week-ends et mes soirées, et qui me regardent juste à dire « il fait ce délire de jeune génération à vouloir sauver le monde ».
T'es peut-être pas assez bourgeois, quoi. Il n'y a peut-être pas qu'un problème d'âge.
Ouais, et en fait, le fait qu'on hexagone, parce que dans les Outre-mer, la répression est vraiment différente qu'en hexagone. Vraiment, ils tuent des gens. Regardez ce qui se passe aussi à Mayotte et dans les Comores. En hexagone, limite le fait que ce serait encore moins pire qu'ailleurs, et le fait que ça pourrait empirer en 2027, nous responsabilise du fait que. Oui, on va se bouffer encore Vlad et lacrymo, et on va se faire écorcher dans tous les sens, mais là on peut pas prendre le risque que ça empire en 2027. La révolution, à un moment, il faudrait y aller.
Ok, bon, sur ces belles paroles, on va se passer peut-être une petite pause musicale pour digérer et revenir encore plus combattant après la musique. Vas-y, Armand.
drifting like waves in the moonlight glow. I thought I knew where we'd begin, but love keeps pulling where I can't go. The words that leave me breathless pull me closer just to let go. You touch my heart, you touch my skin, you bring the light where the dark has been, and I can't escape this fire we're in. We'll send it back to me. I close my eyes, you're by my side, but you're just a dream I can't unsee. You touch my heart, you touch my skin, you bring the light where the dark has been, and I can't escape this fire we're in. You have opened up my heart. This time the pain is left behind. Nothing can keep me from this feeling. I know I'm falling deeper into you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur Allegre FM. Et puis, cette pause musicale était très productive parce que Bilal m'a trouvé des chiffres. Vas-y Bilal, si Ben veut bien te passer le micro.
Du coup, pour les chiffres à Madagascar, on a recensé un nombre de 400 blessés et de 28 morts durant les actions... durant les actions de manifestation à Madagascar.
Donc alors tu m'as dit 48 morts.
Non, 400 blessés et 28 morts.
28 morts. Oui, donc c'est quand même effectivement des bilans qu'on ne connaît pas heureusement chez nous, sinon je ne sais pas ce qui pourrait arriver dans des conditions pareilles. Depuis la commune de Paris, ça n'a pas dû arriver.
Il y a eu la libération de Paris quand même.
Oui, mais c'était pas tout à fait des manifestations avec des confrontations avec les forces de police. Vas-y, Ferial, attends ton micro.
Je reviens du coup à la première question. C'est pour ça du coup qu'on met beaucoup plus de lumière sur les pays du Sud, parce qu'il y a plus de morts et c'est beaucoup plus terrible que ce que nous on vit. Mais dire qu'on ne va pas se battre, si on se bat, hein. On se bat tous les jours. La Gen Z se bat tous les jours. Il y a personnellement, encore une fois, je reviens à mon assaut parce que je suis sur le terrain, mais dès qu'on appelle aux jeunes pour cleaner, pour laver des villes, ils courent. Ils viennent laver, ils viennent mettre leurs mains directement dans les papiers sales que peut-être votre génération jette finalement. Et ben nous on les ramasse, on est là, on se bat. Enfin, je sais pas, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez très bien, vous voyez de quoi je parle. Mm-hmm. Ça se bat tout le temps. On a Greta, j'ai pas son nom de famille. Merci beaucoup. Mm-hmm. Qui est là, qui est super jeune, je pense qu'elle fait partie de la Gen Z. Et même elle, on l'éteint quoi. Enfin, moi je pense qu'on se bat tous les jours. J'avais vu une question qui disait que la Gen Z s'essoufflait. Non, pas du tout. Je vais sortir une petite punchline, soyez prêts. Elle s'essouffle pas. Elle bat à chaque souffle, justement. Elle se bat à chaque souffle. Voilà.
Bon, bah écoute, c'est très bien d'être optimiste.
Il faut.
Alors bon, maintenant, je pense qu'on n'est pas submergé d'images des révoltes dans les pays du Sud. Comment dire, sur la Birmanie, on n'en a pas vu grand-chose. Effectivement, il y a eu quelques passages, mais bon, ce serait intéressant de décortiquer la chose. Et puis bon, il y a un moment, un autre, c'est vrai qu'il faut trouver... c'est pas parce qu'on parle un peu de ces mouvements du Sud... Que ça masque que ça fait de l'ombre aux actions des jeunes en France, dans les banlieues. Je pense qu'il n'y a pas besoin de phénomènes dramatiques dans les pays du Sud pour qu'on invisibilise toute une partie de l'engagement de la jeunesse. Ça a toujours été un peu vrai, mais peut-être qu'à notre époque, avec les moyens qu'on a, les promesses qu'on nous fait, c'est encore plus intolérable. Là-dessus, je te rejoins complètement. C'est proprement scandaleux. Il y a plein d'engagements de tous les côtés. Puis au final, la réalité, elle est tout autre. Alors, donc là, on parle, j'irais, de mouvement en général. On parle de alors, si on essaye de revenir sur ces thématiques climatiques, Jason, tu étais en train de nous dire que quelque part, entre combat et éco anxiété, dont vous vous retrouviez un peu en balance. Mais est-ce qu'il y a des grands sujets? Alors, cette question du climat, c'est vrai que nous, à notre époque, c'était complètement hors de propos. On n'en parlait jamais. On n'a jamais eu conscience de ça. Par contre, on avait une conscience, alors pas tous, hein, loin s'en faut, mais moi, je sais que j'étais très sensible à la question du tiers-monde, de voir ces déséquilibres mondiaux qu'il y avait sur les répartitions de la richesse. Quand j'avais 20 ans, je me disais, ça ne pourra pas durer indéfiniment, cette affaire. La question, alors on était confrontés pour certains à cette question des limites de la Terre avec le fameux rapport Omido.
72.
Bon, là, 72, moi j'étais encore en culotte courte, mais à la fac, le Club de Rome, c'est quelque chose qui nous parlait. Moins pour une partie de fraction, comme tout, la jeunesse est fractionnée. Mais par contre, effectivement, on n'avait pas cette inquiétude de l'avenir. Effectivement, se retrouver avec plus 4 degrés en France, ça fait peur quand même. Vas-y, Bilal.
Bah là, j'ai l'impression un peu qu'on appelle un peu les pots cassés et que du coup, on essaie de réparer tant bien que mal. Avec la génération Z, en faisant des actions. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites un peu partout en France pour récolter des mégots. Et les jeunes sont vachement engagés sur ce sujet-là. Et pas forcément des fumeurs, hein. On parle vraiment des personnes qui fument et qui ne fument pas. On a des... J'ai une amie à moi qui a lancé une application qui s'appelle À Moitié Plein et qui est une application pour engager des jeunes ou même du monde à trier et, pour gagner des points et faire de plus en plus de bonnes actions concernant l'écologie. Et je pense que bah, c'est un point qui serait bien à regarder.
Vas-y, Laure.
Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout aidé par les pouvoirs publics. Et en fait, quand on voit la montée du RN, je vais encore être hyper, disons, pessimiste, mais cette année, par exemple, le RN a complètement détricoté plein de lois qui étaient en faveur de l'environnement. Je pense par exemple, ils ont poussé le redémarrage de la centrale de Fessenheim. Ils ont fait adopter une suspension d'activité sur les énergies renouvelables. Ils ont impulsé la suppression de ZFE, donc les zones à faible émission, qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants pour améliorer la qualité de l'air. Ils ont aussi évidemment détricoté le principe de zéro artificialisation nette qui tend à limiter la bétonisation des terres. Et aussi, ils ont voté contre la loi du plomb. Donc,
pour la loi du plomb.
Oui, pardon. Et du coup, dans ces conditions-là, étant donné que le RN monte à vitesse grand V, et pour 2027, moi, je suis très, très inquiète. Voilà.
Inès, qu'on n'a pas beaucoup entendu.
Alors, moi, à titre personnel, du coup, je suis dans la communication et je travaille pour une association qui lutte tous les jours dans les quartiers populaires. Et c'est quelque chose de très important, puisqu'en fait, on nous demande au quotidien de faire plein de gestes écolos, mais en fait, parfois, on se loigne aussi un peu d'une réalité sociale. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ne peuvent pas quotidiennement manger bio, manger local, manger des produits frais en circuit court. Pareil, on nous demande de ne pas prendre l'avion. Il y a des gens qui prennent l'avion une fois tous les 10 ans. Et je trouve qu'il faut aussi un peu dézoomer le souci et s'attaquer aussi.
Oui, mais bon, c'est vrai que c'est une réalité qu'il faut faire connaître. C'est la disparité des réalités, parce qu'on dit que la moyenne des Français émet 9 tonnes de CO2 par an, mais c'est pas vrai de chacun. Il y en a qui émettent moins de 3 parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter. Et puis, il y a une frange, une minorité qui cartonne à 25 tonnes. Et c'est vrai que ce discours un peu globalisant, bon, ça me choque depuis longtemps, qui est une espèce de consensus mou, de faire croire qu'on est tous dans le même bateau de la même manière. Bon, y en a qui roulent à vélo, puis d'autres en Porsche. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Armel.
Alors, pareil, à titre personnel, donc, je travaille à France Nature Environnement, et depuis quelques années, il y a un travail qui se fait sur l'écologie populaire, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, l'écologie, c'est pas juste une question politique, mais c'est aussi une question sociale, parce que on voit bien qu'en fait, donc les riches qui polluent le plus sont les moins impactés par les impacts du changement climatique, alors que les populations les plus défavorisées, qui vivent notamment dans des logements qui sont des passoires énergétiques, c'est celles qui vont payer le plus en fait en termes de santé, en termes aussi de factures énergétiques. C'est les premières concernées par ces impacts-là. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur justement comment allier les questions sociales, économiques aux questions d'environnement.
Ok, mais alors, comment on peut faire pour faire changer les choses? Alors, j'ai bien compris qu'on allait avoir du mal à faire changer les plus carbonés des boomers, pour pas dire autrement, mais quelque part... comment vous faites, vous, avec les gens de votre entourage, de votre âge, comment se passe le dialogue? Parce que tout le monde n'est pas vertueux. Il ne suffit pas d'être né après 97 pour être convaincu de faire les bons gestes. Alors, comment ça se passe dans votre génération avec, est-ce que vous avez des oppositions, des confrontations avec des opinions carbonées, quoi?
Bien sûr que parfois on trouve des gens qui n'ont pas la même conscience que nous on pourrait avoir. Et là, je ne parle pas justement des boomers. On peut trouver ces personnes-là même dans la génération Z. Moi, ce que je pense, c'est
Je les appelle les carbonés. Hein. tu peux avoir des jeunes carbonés.
On peut avoir des jeunes carbonés dans toutes les générations. Moi, je pense surtout qu'il faut une alliance générationnelle, déjà pour commencer.
C'est ce qu'on fait ce soir. Hein.
Exactement. Entre la Gen Z et les boomers, et entre les Gen Z et entre les boomers, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut une complémentarité. En fait, vous, les boomers, vous pouvez nous donner les réseaux, l'expérience, une mémoire politique très riche et les méthodes. Et nous, on peut être créatives, on peut travailler.
Et puis vous courez plus vite
urgence.
Que nous maintenant.
Hein. on veut réagir. On dit souvent qu'on est anxieux, qu'on a l'éco-anxiété. Oui, certes, peut-être qu'on a l'éco-anxiété, mais il ne faut pas voir cette éco-anxiété uniquement comme un problème, mais aussi comme un moteur pour changer les choses. C'est un sentiment qui conduit les gens, certes, à adhérer à certaines valeurs, à l'engagement extérieur, à prendre position dans les débats publics et puis en parler. Et ça, c'est important. Donc,
voilà. Bilal.
Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, et je suis totalement en phase avec elle, c'est vrai que dans notre entourage, même dans la génération Z, on peut avoir un 50-50 qui se fait, 50% de personnes qui sont vraiment engagées et 50% de personnes qui se sentent pas du tout concernées. Et je pense, pour améliorer ces chiffres-là et avoir un global plus complet, il serait peut-être possible d'adapter la communication en mettant en place des événements, des jeux. J'ai pensé à une idée tout à l'heure, je me suis dit, Il y a deux trois youtubeurs qui sont très très connus en France. Il suffit qu'ils fassent une action, par exemple Inoxtag, Michou, ils font une action avec tous les jeunes.
Inoxtag, connaît Michou, c'est pour nous, c'est ça nous renvoie à autre chose.
Non, pareil, mais c'est un autre.
C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que les deux là, en une phrase, une action, ils peuvent impacter toute la France en, par exemple, mettant un défi sur le tri de cigarettes. Ça peut être un défi très très impactant avec la communication qu'ils ont, et je pense que c'est quelque chose qui ferait vachement avancer les choses. Eux, ils ont ce côté réseau avec des boomers et aussi le côté réaliste avec les jeunes.
Mais bon.
Mais le problème, je pense, avec ce type de format pour les youtubeurs, c'est que ça a pas de buzz en gros. C'est ça aussi le problème. On est dans une génération où on cherche le buzz tout le temps. Et l'écologie, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de buzz dans l'écologie. Et oui, c'est vrai. Mais on concilie beaucoup en essayant, nous, les militants, de mettre justement de la lumière et de mettre du buzz sur notre belle planète. Et tout à l'heure, notre joli collègue disait que... Boutena, merci. Que, en fait, on avait besoin des boomers. Et c'est totalement vrai. Honnêtement, il n'y a rien de ouf à faire. Juste nous donner les moyens. C'est vous qui avez les outils. C'est vous qui pouvez nous aider. Et nous, sur le terrain, vraiment...
On a plus les sous. Hein.
Non, véritablement, on se prend tout le temps des noms. C'est toujours une galère pour avoir... Bah, je répète encore, mais c'est vraiment une souffrance pour nous. Mais on n'a pas de local. Vous vous rendez compte qu'on aide...
T'es dans quelle commune pour pas...
On est dans toute la banlieue parisienne. On a essayé partout parce que nos bénévoles viennent absolument partout. On vient du 95, du 78, du 92, du 91. On vient de partout. On a 500 bénévoles quand même. Et avec nos 500 bénévoles, c'est un gros réseau. Hein. On n'arrive pas à trouver de locaux parce qu'ils se prennent des non, 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 non.
T'as besoin
non.
de quoi comme local tu veux quoi non, non,
si tu veux me l'offrir, François, je ne dis pas non.
Rien
on ne veut pas encore de l'immobilier ici.
Non, mais c'est pour vous dire que vraiment, on manque de moyens. Moi, c'est le local. Ouais. Pour d'autres associations, ça peut être autre chose. C'est les médias, c'est les relais, c'est plein de trucs.
Il va y avoir des municipales bientôt. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des...
C'est triste de voir passer comme ça, quand même.
Ah bah, non, je ne pense pas que ce soit triste. Ça fait partie de la démocratie. Il y a des moments où il y a des points... Il y a des, voilà, c'est ça. Donc, ça se passe maintenant. Et peut-être qu'il faut le faire savoir, ça. Peut-être faire une liste de... Un cahier de doléances.
À chaque municipale...
C'est tous les 6 ans, voire 7 ans.
Ans ça fait 6 ans que Biff est sur le terrain et on n'a pas de local. Et au-delà du local, on n'a pas de matos, on achète tout seul, on n'est pas subventionné parce que t'es trop noir, parce que t'es trop arabe, parce qu'on voit ton voile. Enfin, il y a tout un tas de problèmes auxquels on est confronté et nous, on demande rien qu'à être aidé. C'est tout.
Ok, écoute, il faut trouver des moyens de répondre à ça. Je n'ai pas de solution immédiate. Vas-y, Jason. Pas de souci.
Je me permets de continuer un peu le plaidoyer sur les conditions de militantisme, notamment de cette jeune génération. Je pense que c'est hyper important d'en parler. C'est mon cas et c'est le cas de beaucoup d'amis qui militent. On le fait quasiment toutes et tous dans la précarité. On est beaucoup à être au RSA, on est beaucoup à être dans le chômage. Et en fait, c'est là où... Moi, je suis assez relax sur le fait de dire que si on regarde où est situé le patrimoine des gens, il y en a beaucoup plus dans les personnes plus âgées que nous. Moi, je pense à ma famille, je pense à des gens que je croise. S'il y avait une redistribution de ces patrimoines vers les jeunes générations pour qu'elles puissent se professionnaliser dans leur travail littéralement de bien commun, je pense qu'on avancerait bien. Et quand j'entends certaines personnes dire « Oui, mais vous allez avoir un héritage », j'ai d'accord, mais... si je dois attendre que l'héritage descende à moi, le monde sera déjà fini. Enfin, si on parle de changement climatique, j'aimerais quand même parler de la situation dans mon pays. On a 118 îles réparties sur la surface de l'Europe. Il y en a qui font 1 à 3 mètres d'altitude, 80. Ces îles-là, à la fin du siècle, elles sont inhabitables. On va devoir déplacer 18 000 personnes. On va leur dire, toutes les tombes de tous vos ancêtres seront sous l'eau. Vous n'allez plus pouvoir vous recueillir. Vos enfants ne vont pas grandir sur la même île que vous. C'est de ça dont on parle. La COP, c'est un échec total. Tous les jours, on est en retard. Il faut débloquer de la force de travail immédiatement. Et cette force de travail, ça se traduit en argent pour embaucher une génération qui veut travailler là-dedans, mais qui ne trouve pas d'embauche. Tous les gens qui candidatent, dès qu'une asso trouve des financements, il doit y avoir 400 candidatures dans les orgas parisiennes à chaque fois qu'un poste s'ouvre, ces 400 personnes-là, sortez Sortez vos patrimoines, sortez vos héritages, on les embauche, on développe une force politique de la jeune génération et peut-être qu'on va y arriver sans avoir besoin de tout casser. Mais à un moment, les gens de mon pays et dont moi, il y a une réelle souffrance du fait que là, on est en train de crever. On s'en fout de nos vies, mais nos îles et nos prochaines générations, de où elles vont vivre, ça par contre, c'est important pour nous. Et c'est ce qui se joue maintenant. Donc je pense que c'est ce qu'on va appeler le global. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces niveaux de révolution? C'est parce que ces gens se sont sentis à ce niveau d'urgence-là où il y avait littéralement une main autour de leur cou. Et nous, c'est ce qu'on ressent pour beaucoup dans les Outre-mer. Bon, on n'est pas assez pour faire la révolution. Et il y a un décalage, il faut le dire, entre nous et les hexagonaux qui, eux, vivent sur un grand continent qui ne ressentent pas autant que nous cette urgence climatique. Et juste... On a de quoi faire, et quand on parle de notre génération, il faut parler de cette précarité, et la réponse elle est très simple.
C'est clair que quand on est sur le plomb du Cantal ou sur les hauteurs du Forez, on a moins peur de la montée des eaux. Mais effectivement, ce que tu nous dis, c'est qu'en France on a déjà des réfugiés climatiques qu'on invisibilise.
Oui, allez pas les chercher en Amérique du Sud ou je sais pas où, il y en a qui sont français, qui sont sous la juridiction et la responsabilité de l'État.
Non, mais voilà,
il y en a qui n'ont même pas d'eau potable.
C'est des réalités qu'il faut pouvoir... Oui. Faire réapparaître dans les banlieues, dans les outre-mer. Il y a un moment, effectivement, ces réalités-là, il est grand temps qu'on les fasse émerger. Quoi.
Ouais, c'est moi, ça, moi, je voudrais continuer sur cette... sans pouvoir faire forcément le buzz sur cette espèce de convergence des luttes, qui est vachement intéressante au niveau générationnel, parce que moi, j'apprends ce soir que, au fond,
Ben, j'ai été obligé de te couper parce que là, c'est le
jingle.
Ça va être le jingle. On n'a pas.
J'ai plein de choses à dire après.
Voilà, c'est ça. Mais donc, on continue, chers auditeurs. On continuera dans une deuxième émission avec. On les refera venir et on poursuivra cette excellente conversation très riche. Mais là, il faut qu'on ferme cette première émission. Je vous remercie tous, mais je ne vais pas pouvoir tous vous citer. On va pouvoir remercier Armand. Et puis, à la prochaine émission, on se dépêche de revenir très vite. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.